RCF.
Et à 18h10, nous retrouvons le 18-19 régional Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Bonsoir à tous, 18h10, 19h, magazine régional. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Dans quelques instants, on vous propose le programme de la soirée, l'actualité du moment. On la suit en même temps que vous, hein, parce que finalement, on n'invente pas ce qu'il se passe, on n'invente pas l'actualité, Jean-Pierre. Mais c'est vrai que c'est le remaniement du gouvernement. On attend les ministres qui vont être annoncés d'une minute à l'autre.
Alors évidemment, sur toutes les chaînes de télévision, les radios, tout le monde connaît les principaux ministres qui ne vont pas bouger dans ce gouvernement, c'est-à-dire les poids lourds. Comme Sébastien Lecornu, comme
ministre des Armées,
ministre des Armées,
ministre de l'économie, Bruno Le
Maire. Voilà, exactement.
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.
Le garde des Sceaux, Dupond-Moretti. Tous ces postes-là ne vont pas changer, mais ce qui nous intéresse en local, c'est évidemment ce qui se passe du côté de Catherine Vautrin, d'Arnaud Robinet et de Boris Ravignon. Et là, on n'en sait rien.
Effectivement, parce qu'on entend pas mal de choses tourner depuis le milieu d'après-midi et peut-être qu'il pourrait y avoir des nominations du côté de nos figures locales. Pour décrypter toute l'actualité politique, Fernand Tavares sera avec nous. C'est nos yeux et nos oreilles pendant que l'on vous présente cette émission. Il viendra faire un point sur la situation juste après le journal régional, Jean-Pierre.
Alors, simplement d'un mot, on peut dire quand même que Catherine Vautrin tient, entre guillemets, la corde parce qu'on l'annonce sur plusieurs médias, mais avec un point d'interrogation. Et quand on sait ce qui s'est passé en mai 2022 à son
sujet, on est
prudent. Elle était annoncée, Premier ministre, c'était quasiment fait. Elle avait visité pratiquement les locaux de Matignon. Et puis, ça ne s'est pas produit. Donc nous, sur RCF, on va attendre que
et
ça
si
se passe.
Et si elle aurait un ministère, Catherine Vautrin, ça serait soit celui des Affaires sociales, soit le ministère du Travail.
C'est ce qui est annoncé, en tout cas, les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et sur les principaux médias.
En quelques secondes, le programme de la soirée, c'est dans quelques instants Gérard-Marie Henry pour le bilan de l'économie française en ce début d'année. Nous serons ensuite avec Charles Gossard, le maire de Fismes, un maire qui nous parle comme tous les soirs. On vous l'a dit il y a quelques instants, juste après le journal régional, Fernand Tavares décrypte l'actualité politique et le remaniement gouvernemental. On parlera aussi jeux vidéo ce soir dans Parole de Jeunes avec Nina Carla et Jeanne. Et puis on parlera de l'hospitalité diocésaine dans le diocèse de Châlons avec les pèlerinages diocésains qui se prépare à Châlons-en-Champagne. Claudine Vincent sera notre invitée en deuxième partie d'émission 18h13.
Alors à 18h13, Alexis, on démarre cette émission avec, bien sûr, notre fidèle chroniqueur du jeudi.
La question d'économie avec Gérard-Marie Henry, la première de l'année 2024. L'occasion pour nous de lui présenter nos meilleurs vœux. Gérard-Marie Henry, on vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé.
Très bonne année à tout le monde. Bonjour pour la rentrée.
Et généralement, on fait des bilans, c'est plutôt en fin d'année, en fin de saison. Et vous, Gérard-Marie Henry, vous souhaitez commencer 2024 par faire un bilan, celui de la France. Comment il traverse la tempête économique qui touche, j'allais dire, le monde entier, mais aussi l'Europe depuis les nombreux conflits, Russie-Ukraine, Israël-Palestine, etc. et bien d'autres choses.
Oui, alors on va essayer de parler positivement de l'économie française en ce moment. C'est pas forcément ce qui intéresse les gens. En fait, ce qui les intéresse, c'est les deux sujets avec les points sur les i, l'immigration, l'insécurité. Mais on va voir que la situation économique, donc, est relativement satisfaisante.
Une situation économique satisfaisante, pourquoi, Gérard-Marie Henry? Quels sont les facteurs qui vous permettent de dire ça?
Parce que d'abord, on a bien baisse de l'inflation. Alors j'espère que dans les semaines qui viennent, je ne vais pas être démenti par blocage du passage du pétrole dans la mer Rouge, avec toutes les attaques qui se passent. Donc ça pourrait effectivement faire monter le prix du pétrole très haut et avoir un impact sur l'inflation. Mais pour l'instant, donc cette inflation, elle diminue très gentiment. On est aux alentours maintenant entre 2 et 3%, c'est-à-dire pas très loin de l'objectif qu'on se fixe habituellement.
Ça, c'est un des facteurs. Il y a aussi le PIB où la France paraît plutôt timide, mais finalement n'est pas si mal si on fait une comparaison par rapport à ce qu'il se passe chez nos voisins.
Tout à fait. Donc on a effectivement une croissance qui n'est pas aussi dynamique que ça, mais elle ne sera plus jamais en fait, hein, puisque les gains de productivité ne sont pas très élevés dans les pays développés. Il n'y a que ceux qui rattrapent qui peuvent faire plus vite parce qu'ils regardent ce que font les autres. Mais ceux qui sont un peu en avance, comme la France l'est, il faut inventer, c'est pas simple. Mais on a quand même une croissance positive, donc ce qui est sympathique parce que ça fait quand même qu'il y a des augmentations de pouvoir d'achat, ça fait quand même que les emplois se maintiennent. même si dans les bémols qu'on va voir, il y a effectivement une remontée un petit peu embêtante du chômage. Hein. On est repassé au-dessus des 7,5, on va vers 8, alors que l'objectif du président de la République était d'arriver à 5% en fin de mandat. Ça va peut-être être difficile. Mais globalement, donc, quand on se compare avec nos voisins européens, on a une situation économique qui n'est pas si mauvaise que ça.
Effectivement, vous l'avez dit, il y a quand même beaucoup de points positifs à tirer. Il y a quelques bémols, notamment le montée du chômage. On va s'arrêter dessus, comme ça on terminera par des bonnes nouvelles, si vous le voulez bien. Gérard-Marie Henry, comment on explique justement que cette courbe du chômage, qui s'était pendant un temps inversée, aujourd'hui, elle repart à la hausse?
Parce que les entreprises ont réembauché fortement après la fin de la pandémie. Elles avaient bloqué les embauches, elles n'avaient pas trop détruit d'emplois, puis elles ont vu que ça repartait, donc elles ont vraiment offert pas mal de jobs, donc ce qui a fait diminuer le chômage. Puis là, elles s'inquiètent un petit peu, puisqu'elles savent quand même que la croissance n'est pas très forte, que la Banque Centrale Européenne ne va pas tout de suite baisser ses taux, donc elles disent que c'est pas le moment trop de créer des emplois supplémentaires. Or, il y a des gens qui arrivent sur le marché du travail. Si en face, il n'y a pas de nouveaux emplois créés, automatiquement, ça fait une montée du chômage, bon, qui n'est pas désastreuse, mais qui est quand même un peu embêtante, puisque ça tombe toujours sur en fait les mêmes personnes. Hein. Ceux qui sont diplômés, qualifiés, etc., vont trouver des jobs. C'est ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup de compétences qui vont rester sur le carreau, ce qui accroît un peu, à moyen terme, les difficultés politiques du gouvernement actuel. Même avec le changement de Premier ministre, si le chômage augmente, si les problèmes immigration, insécurité ne sont pas réglés, on va quand même vers des élections qui vont être un petit peu difficiles dans les années qui viennent.
Puisque l'on regarde des choses qui font un petit peu plus mal que d'autres, les finances publiques, tout n'est pas rose non plus, Gérard-Marie Henry.
Oui, alors évidemment, le bon résultat de la France, il est dû au fait aussi que le gouvernement n'a pas hésité à emprunter massivement pour soutenir l'économie. Donc on continue à être dans l'Union européenne le pays qui emprunte le plus, qui a donc une dette publique qui augmente. Même les Italiens arrivent à faire mieux que nous, ce qui n'est pas peu dire. Donc ça, c'est le prix à payer pour la stabilité économique. Alors on peut espérer que rapidement, le nouveau gouvernement va un petit peu faire des économies, enfin trouver des pistes pour pas qu'on continue à avoir ces 300 milliards d'emprunts annuels qui font augmenter ce que doit l'État rembourser dans les 10, 15, 20, 30 ans à venir. On augmente la charge sur les générations futures en faisant cette politique.
Toutes les choses que l'on évoque, évidemment, elles ont intérêt, Gérard-Marie Henry, mais concrètement, pour l'auditeur de RCF, il se dit « Mais qu'est-ce que tout cela va changer pour moi ?» Alors, est-ce que, finalement, en 2024, le consommateur de RCF qui va aller faire ses courses dans un magasin, etc., lui va voir peut-être les prix, l'inflation se stopper ou en tout cas se freiner ? Est-ce que... voilà, c'est toutes les questions un petit peu pratico-pratiques qu'on se pose. Le gouvernement dit « C'est la fin du bouclier tarifaire concernant l'énergie. » Est-ce que l'auditeur de RCF va dépenser plus en 2024 en 2023, Gérard-Marie Henry?
Ça ne dépend pas du gouvernement français, en fait, ça dépend des prix de l'énergie au niveau mondial. Et là, on ne sait pas quoi, ce qui peut se passer si le désordre que créent les Yéménites Houthis avec leurs drones, etc., dans les lignes de communication qui sont extrêmement importantes, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'il y aura une riposte des pays normaux? Est-ce qu'on va leur taper dessus pour qu'ils arrêtent de faire ça? Enfin, je ne sais pas. Donc ça, le consommateur moyen, le prix de l'énergie, c'est pas le gouvernement, c'est pas Attal qui décide. Par contre, sur l'inflation alimentaire, sur des choses comme ça, normalement le consommateur devrait voir que ça n'augmente plus aussi vite, que ça baisse pas vraiment, mais les prix restent sages, il y a même des réductions de prix, etc. Donc il devrait peut-être être content, à condition qu'il ait un emploi et que cet emploi ne soit pas menacé, bien sûr.
On s'écarte un petit peu du sujet du jour, et en plus vous êtes exilé en Bretagne pour ne pas trahir de secret, Gérard-Marie Henry, mais dans un journal local que vous connaissez bien, puisque vous collaborez aussi avec, notamment dans les pages économiques, il y a votre collègue Thomas Crouzet qui disait cette semaine dans un édito, on a essayé d'un petit peu tromper les consommateurs en gardant la même taille de packaging, mais en mettant moins de produits dedans. Donc finalement, ce que ça va se ressentir aussi là pour le consommateur, qui devra acheter plus de fois ce même produit pour avoir la même quantité de ce qu'il avait.
Non, le consommateur a bien compris, on appelle ça la shrinkflation, donc c'est l'inflation qui réduit la taille des paquets. Au lieu d'avoir 6 trucs, il n'y en a que 5, ou s'il y en a 6 encore, ils sont plus légers. Mais en fait, les consommateurs, si on regarde ce qu'ils ont dépensé à Noël, on s'aperçoit qu'ils ont été très sages, quoi. il y a quand même du côté du comportement des ménages une idée qu'il faut pas exagérer, qu'il faut pas, donc il faut être à l'affût des bonnes réductions, des bons endroits, etc. Et donc le fait que les entreprises fassent aussi des efforts pour pas augmenter leurs prix mais en réduisant un peu les parts, ça les gêne pas trop, quoi. Enfin, on a mangé moins de foie gras, on a mangé les choses assez coûteuses, ont vu leur consommation ne pas augmenter comme c'était le cas chaque année, même pendant la période du Covid, quoi. Donc là, on a peut-être un changement de comportement des consommateurs qui se disent faut faire attention, d'une part c'est bon pour ma santé peut-être de ne pas exagérer, et puis il y a l'avenir, on ne sait pas très bien ce qui se passera dans quelques années, donc je fais attention. Et ça, effectivement, ça pèse aussi sur la croissance. Hein. Si on a des consommateurs qui freinent, comme c'est le cas en Chine, hein, la croissance chinoise ralentit fortement parce que les consommateurs chinois se disent ben, « je vais pas avoir de retraite, etc. Il faut que j'épargne. Le prix de la maison dans laquelle je suis, il augmentait de 10% par an. Maintenant, il diminue de 5% par an. Donc, qu'est-ce que je vais faire ?» Donc tout ça, on a un changement de comportement qui n'est pas général. Les extrêmement riches peuvent continuer à faire ce qu'ils faisaient avant. Mais pour les classes moyennes et les classes populaires, on a vraiment une tendance à l'austérité, on pourrait dire.
En tout cas, Gérard-Marie-Henri, vous nous avez donné un sujet, on s'est un petit peu égaré, mais on a essayé de répondre à la fois pour ce qui se peut se passer à l'échelle de la France, mais à l'échelle du consommateur, de l'auditeur de RCF. Et ça, c'est très important. On vous remercie pour votre analyse, toujours perspicace en 2024. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles questions d'économie à vous poser. À très bientôt, Gérard-Marie-Henri.
À très bientôt, Alex. On va se retrouver la semaine prochaine.
Le 18-19 sur RCF.
18h21 sur RCF avec Jean-Pierre Benoît, toujours à l'affût de l'actualité. Jean-Pierre, on vous entendait remettre votre casque, mais on était en train aussi de suivre. Vous étiez en train de passer des coups de fil, Jean-Pierre, justement, pour essayer de savoir ce qu'il se passe et être au plus près de l'actualité pour nos auditeurs.
Eh bien, ce qu'on dit en coulisses, mais c'est pas notre rôle, nous, à RCF, de faire les gens qui sont...
On n'est pas à la recherche du scoop.
On n'est pas à la recherche du scoop. Certains disent, évidemment, il y a des effets collatéraux. Si Catherine Vautrin est au gouvernement, il est difficile pour Arnaud Robinet de l'être, mais qui va présider le Grand Reims? Là aussi, c'est quelque chose de nouveau.
Et inversement.
Et un des vice-présidents actuels du Grand Reims nous disait, eh bien, si il faut quelqu'un qui dirige le Grand Reims, probablement qu'il faut que ça soit un Rémois. Et parmi les Rémois, ben, il y a Arnaud Robinet, mais il y en a peut-être d'autres, mais ça sera... Une autre question, effet collatéral si Catherine Vautrin devient ministre.
En attendant, on va aller faire un tour dans nos territoires, Jean-Pierre, avec un maire qui nous parle, qui vous parle, comme tous les soirs. Charles Gossard, l'édile de Fismes, est avec vous.
Charles Gossard, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, de façon un peu générale, la commune de Fismes que beaucoup de Rémois et d'Ardennais connaissent d'ailleurs?
Oui, donc Fismes, c'est une commune de 5800 habitants, qui est à l'ouest de Reims, dans un quadrilatère entre Reims, Soissons, Laon et Épernay.
Et la commune de Fismes, elle est très très active, il y a beaucoup de commerce, c'est un centre d'ailleurs, il y a les communes avoisinantes, on vient à Fismes faire ses courses, hein. C'est quand même un bourg-centre Fismes aujourd'hui.
Exact, oui, c'est un bourg-centre puisqu'on estime notre zone de chalandise entre à peu près 30 000 personnes. Donc il y a à peu près 30 000 personnes, et on a, nous sur Fismes, on a 1800 scolaires, quoi.
Alors, depuis quand vous êtes maire de Fismes vous-même?
Donc moi j'ai été élu maire en 2020, hein, et précédemment j'étais avec le Jean-Pierre Pinon, j'étais adjoint à Jean-Pierre Pinon.
Et puis bon, progressivement, vous étiez sans doute bien avant conseiller municipal, adjoint. C'est des motivations, c'était peut-être dans votre ADN, vous êtes aussi au service. Et on dit aujourd'hui que beaucoup d'élus le disent, quand on est maire, on est vraiment en contact avec la population. C'est un mandat de proximité quand même, très important.
Oui, c'est un mandat de proximité. Moi, précédemment, j'étais libraire, donc un contact avec les gens au quotidien est quelque chose que j'apprécie. Après, j'estime qu'on a tous un devoir vis-à-vis de la société, et surtout la société française, avec les acquis qu'on a, tout ce qu'il peut y avoir, l'éducation, la sécu, etc. Je pense qu'on a tous besoin, un petit peu, quelque part, de rendre à la société ce qu'elle nous a donné. Donc, c'était peut-être un héritage politique de mes parents, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'estimais qu'il fallait s'investir.
Comment peut-on caractériser la commune de Fismes aujourd'hui? Le type d'activité, les habitants, est-ce qu'il y a des gens du monde rural qui reviennent? Est-ce qu'on s'installe aujourd'hui à Fismes?
Oui, alors on s'installe toujours à FIM. Alors il y a une particularité, et justement on a fait une analyse des besoins sociaux récemment. Par exemple, sur FIM, vous avez 1000 personnes tous les jours qui s'en vont travailler sur les extérieurs. Ça, on le savait, on s'en doutait un petit peu. Mais par contre, on en a 900, on en a plus de 900 qui tous les jours viennent des extérieurs pour travailler sur FIM. Donc vous voyez, il y a toujours un mélange de populations justement dans, qui naviguent pour venir travailler et partir travailler ailleurs.
Alors c'est vrai qu'un maire est aujourd'hui très souvent sollicité et beaucoup s'interrogent face aux responsabilités. Il y en a même qui disent « bon ben je refuse, j'abandonne, c'est trop lourd ». C'est vrai que c'est une charge lourde, monsieur le maire?
Oui, alors c'est une charge lourde parce qu'on peut estimer qu'on a une population qui est peut-être de plus en plus difficile à gérer. Mais vous savez, des communes comme la nôtre ou des grosses communes, ben voilà, on a quand même des équipes techniques qui nous aident, qui nous encadrent, j'ai une police. Après, pour moi, je pense que la responsabilité est encore plus difficile pour les petits villages, parce que les maires sont souvent seuls. Et ça, ils doivent gérer tout de notre côté. Moi, à mes côtés, j'ai un ingénieur, j'ai un comptable, j'ai la police municipale. Donc, je suis encadré. Et j'ai des
mais c'est soins, pour donc, le département de la Marne, FIM, c'est une grosse commune. Hein, je veux dire, elle fait partie des grosses communes. Hein, plus de 5000 habitants, ça compte. Hein.
Oui, ouais, ça commence à faire. Et puis, avec l'État, on a mis en place les petites villes de demain. On appelle ça les PVD. On est la seule dans la commune PVD dans le Grand Reims. Voilà, pour garder ces bourgs-centres et les faire fructifier.
Alors, il faut dire, Charles Gossard, qu'il y a aujourd'hui également, vous l'avez signalé, le Grand Reims. Mais le maire, ça compte toujours. Je vais être un peu familier, mais le maire, il est quand même un peu, il faudrait reconnaître, le patron chez lui, même s'il y a le Grand Reims.
Oui, oui, ça ça a toujours été comme ça, vis-à-vis de la population, ça reste, parce que de toute façon, le Grand Reims, si vous voulez, ce sont les élus du Grand Reims, ce sont pratiquement comme des grands électeurs, mais le maire est responsable de ce qui se passe dans le Grand Reims. Et la preuve, c'est qu'il a le droit de veto sur sa commune par rapport aux choix qui sont faits, quoi.
Il faut dire aussi que vos administrés, ils vous posent des types de questions très différents. Je veux dire, parfois, vous êtes obligé... Bon, vous avez, c'est vrai, maintenant, quand même du monde autour de vous pour gérer pas mal de choses, mais parfois, le maire, il est vraiment au contact de réalité. Hein.
Oui, c'est vrai. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il doit être sur le terrain, il est au contact de ses... Le plus difficile, ce sont les preuves sociales que peut traverser une famille, quoi. Ça, c'est vraiment compliqué quand on est averti là-dessus. C'est vraiment compliqué. Le reste, après, voilà, c'est problème après problème, on les prend, et de toute façon, voilà, on sait pertinemment que c'est une sinusoïde. Un jour, ça va, l'autre jour, ça va pas, et puis il faut faire avec, il faut faire avancer les choses.
Alors, avez-vous des projets en cours ou à long terme, vous et votre conseil municipal, Charles Gossard?
Oui, oui, on a des projets, bien entendu. FIM est une ville médiévale, d'accord? Donc, la première chose à faire, c'est déjà de sauver ce qui faisait notre histoire. Donc, on va refaire les remparts avec une petite échauguette au-dessus, pour vraiment mettre un point sur nos origines. Et par rapport à ça, on va réhabiliter des places en les naturalisant.
Ça, c'est une demande quand même assez forte aujourd'hui, une qualité de vie, puis j'allais dire une ville agréable, quoi, qui donne envie.
Oui, et puis voilà, il va falloir aussi, on voit ce qui s'est passé avec tout ce qui peut y avoir avec les pluies qui sont de plus en plus violentes, qu'il va falloir que les sols s'imprègnent, pouvoir s'imprégner, végétaliser un petit peu tous ces endroits bétonnés, donc il va falloir travailler autrement, voilà, c'est notre époque, c'est différent, on le sait quoi.
Et à plus long terme, il est vrai que par exemple les routes, tout ça, bon, pour l'instant ça, il y a ce qu'il faut, enfin c'est...
Oui, les infrastructures, ils sont là. Et ça, c'est une compétence de Grand Reims. Donc, on travaille, je vous dis, on travaille en permanence avec eux. Hein. Donc, d'un autre côté, tout ce qui est route, entretien, c'est leur job, on va dire.
Alors, on dit aussi, le maire est très occupé. Donc, vie professionnelle, vie familiale, c'est pas toujours facile à conjuguer tout ça.
Non, non. Donc, moi, j'ai arrêté mon activité il y a à peu près un an parce que je pouvais pas faire les deux. Hein, c'était pas possible parce que sur la mairie ça prend beaucoup de temps, mon activité professionnelle en prenait aussi, donc j'ai pas pu faire mener les deux à la fois.
Et maintenant vous vous consacrez davantage à la mairie, mais vous pouvez être dérangé, vous participez à des réunions, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à tenir la route parce qu'il y a quand même beaucoup de rencontres, de réunions, et que quand quelqu'un travaille toute la journée ou avec des enfants ou je ne sais pas,
c'est ça
devient très très compliqué.
très compliqué. Une commune comme la nôtre, c'est très compliqué, puisqu'il y a des réunions en journée, il y a des réunions, voilà, il faut préparer, il y a des préparations, il y a quand même, il y a tous les textes qu'il faut quand même regarder, il y a plein de choses à faire, et c'est pas possible, ou alors on risque de passer à côté de choses relativement importantes, et ça serait néfaste.
Monsieur le maire, on aura l'occasion bien sûr de nous retrouver, si vous l'acceptez, de temps en temps, sur l'antenne de RCF, l'occasion de parler de FIM, on en entend beaucoup parler, FIM et puis FIM, une belle commune, un maire qui est un passionné, et je termine toujours par la même question à tous les maires que nous avons avec nous sur notre antenne, vous êtes un passionné, et vous êtes un maire heureux, on peut le dire.
Oui, mais je suis déjà un homme heureux, donc c'est très important, et après, le fait de faire ce qu'on a envie, et de faire avec mon conseil municipal, hein, c'est important, et je le répète, hein, je ne suis pas tout seul, j'ai des adjoints, etc., et de pouvoir voilà, avoir envie de faire progresser sa commune, on peut dire que ça rend un maire heureux, c'est vrai.
Merci en tout cas Charles Gossard, maire de FIM, d'avoir été avec nous, et sans doute à bientôt sur RCF.
Merci Jean-Pierre.
Au revoir.
Merci à tous les deux, et nous, à 18h30, on est heureux de lancer le journal régional. Avec les titres de ce jeudi 11 janvier, à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, plusieurs établissements scolaires marnais ont accueilli la flamme olympique en ces débuts de semaine. Reportage à Châlons-en-Champagne. Un généreux donateur a offert à la ville de Charleville-Mézières deux manuscrits d'Arthur Rimbaud qu'il avait achetés aux enchères en décembre. Focus sur cette belle histoire.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
18h31, l'Académie de Reims, par la voix de son recteur Vincent Stanek, rappelle qu'en cette année olympique, elle se lance dans un cycle de conférences organisées un jeudi par mois de 18h à 20h dans l'amphithéâtre 10 du campus Croix-Rouge de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Accessible à tous et gratuite, elles traiteront entre autres des liens entretenus par le mouvement olympique avec la géopolitique, l'histoire, la nutrition ou encore la préoccupation environnementale. Il sera également possible d'y participer en visioconférence. Et on prend la direction de Châlons-en-Champagne puisque les étudiants chalonnais vibrent déjà pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Christopher, dites-nous en plus.
Et oui, Alexis, imaginé par l'Académie de Reims pour promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, tout en valorisant le travail des élèves et des enseignants autour de la pratique sportive et du vivre ensemble, la flamme académique continue de sillonner la Champagne-Ardenne, dont la Marne. Hier matin, la flamme a démarré son parcours à 8h depuis le Collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne. À cette occasion, le Collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne a organisé plusieurs temps forts, dont la chaîne humaine formant les anneaux olympiques et la rencontre avec Camille Regnault de l'équipe de France de breakdance afin de partager sa passion et ses valeurs aux élèves.
Je fais du breaking, j'ai commencé très tard, j'ai commencé à 26 ans. J'ai été 3 fois championne de France, j'ai eu un titre de championne du monde en 2018 à un battle qui s'appelle Unbreakable et vice-championne du monde Battle of the Year. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire, en fait, transmettre aux jeunes parce que je trouve que le breaking c'est vraiment une belle discipline, ça transmet des très bonnes valeurs, ça apprend beaucoup de choses dans la danse mais aussi dans la vie. Enfin, c'est des valeurs qu'on apprend, qu'on peut mettre en pratique dans la vie. Et j'espère que ça les motivera, que ce soit pour faire du break ou autre chose.
Pendant ce temps-là, la flamme académique a traversé la ville de Châlons-en-Champagne en passant notamment par le cours Saint-François d'Assise, un beau trajet sous un ton hivernal.
Ça va, c'est très bien. Et
ça va,
c'est une bonne expérience.
Une belle aventure.
Ouais. Malgré le froid.
Oui, finalement ça va. Bon, ça glisse un peu sur les trottoirs, mais on est prudent.
Il est 9h45, la flamme termine son parcours chalonnais au lycée Frédéric Ozanam. Un moment exceptionnel pour Timéo, Clara et Baptiste, tous les trois étudiants au lycée Ozanam.
C'est quand même symbolique, c'est quand même les Jeux Olympiques quand même, donc c'est pas rien quoi. Ouais, c'est vraiment un plaisir de faire ça.
C'est assez d'émotion quand même, enfin de porter une flamme académique qui est assez lourde quand même sur un parcours. Et franchement, ouais, c'est quelque chose d'exceptionnel.
C'est incroyable parce que en plus, étant en background de la sécurité, j'envisage de faire des métiers en rapport avec la sécurité dans le pays. C'est une fierté de pouvoir participer à ce genre d'événement. Ça arrive pas dans tous les lycées, donc non, c'est plutôt incroyable comme situation à vivre.
Un moment exceptionnel pour les étudiants, mais aussi pour le chef d'établissement Éric Persan, qui n'oublie pas ce côté union de l'événement.
on retrouve là les valeurs de l'olympisme, hein, qui est l'union. C'est la possibilité de réunir déjà à Ozanam en tant que tel les deux sites d'enseignement qui sont le site centre et le site du Mont-Héry. C'est la possibilité aussi d'unir les établissements privés de Chalon, mais aussi c'est aussi la possibilité de se réunir autour d'un projet académique lancé par le recteur. C'est un événement unique dans une carrière. Pouvoir accueillir la flamme académique et s'associer aux valeurs de l'olympisme, c'est vraiment exceptionnel.
Des images sont à découvrir sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne.
Un reportage proposé par Christopher Fausten. Le froid fait chauffer au 10-51 à la caserne Marchandeau de Reims. Depuis vendredi, le chauffage du centre de secours est en panne et il faudra attendre encore 2 semaines pour que la pièce défaillante soit remplacée faute de disponibilité. 18h35, Jean-Pierre, l'actualité, c'est le remaniement gouvernemental.
Et oui, si ça chauffe pas pour les pompiers, ça chauffe pour les ministres. En ce moment, on peut dire, et vous l'avez rappelé tout à l'heure Alexis, que les poids lourds de ce gouvernement restent, hein, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, le ministre de la Justice Moretti, et puis évidemment aussi la ministre des Sports, ça vous le suit, hein, Amédéa
Castéra.
Et alors bien sûr, on suit, j'allais dire, nos poulains,
et Rachida Dati à la culture également.
Et Rachida Dati, ça c'est une grande nouvelle, parce que il est bien évident que derrière les élections européennes qui vont avoir lieu, se profile
le 9 juin.
En 2026, et c'est demain 2026, les élections municipales à Paris, Rachida Dati a conscience qu'elle ne peut peut-être pas gagner toute seule pour faire partir, entre guillemets, Anne Hidalgo, et elle a besoin de Renaissance. Est-ce qu'il y aura un pacte entre Renaissance et Rachida Dati pour faire cause commune et que Rachida Dati serait assurée du soutien de Renaissance, et en échange, bien sûr, on la remercie par un poste à la culture.
Des éléments de réponse peut-être d'ici quelques instants avec Fernand Tavares qui sera à votre micro. Jean-Pierre, on avance, il est 18h36. Flashback sur la journée du 8 décembre dernier lors d'une vente aux enchères à Paris. 200 lots consacrés à la poésie française du 19e siècle sont mis en vente. Plusieurs concernent le poète natif de Charleville-Mézières, Arthur Rimbaud. La ville se positionne alors sur le lot 140, une lettre de 2 pages qu'Arthur Rimbaud adresse à sa mère depuis l'Éthiopie en février 1891, où il évoque notamment les débuts de sa maladie. Pour 78 000 euros, financés à 50% par l'État et la Fondation du patrimoine et 20% par la région, la lettre est obtenue par la ville de Charleville-Mézières. Mais ce jour-là, 2 autres lettres sont également mises aux enchères. Une est adressée par Arthur Rimbaud à sa sœur le 23 juin 1891 depuis son lit d'hôpital à Marseille et est vendue à un peu plus de 179 000 euros. L'autre est de nouveau une lettre adressée à sa mère depuis le Yémen. C'était le 15 janvier 1883. Elle est acquise pour 39 000 euros. Le point commun de ces deux dernières, un même acquéreur les a obtenues et en décidant de conserver l'anonymat, les a offertes à la ville de Charleville-Mézières. Lors de la cérémonie des vœux 2024 dimanche dernier, Boris Ravignon, le maire carolo-massérien, a souhaité remercier ce généreux donateur.
Permettez-moi ici un remerciement tout particulier. Vous avez peut-être su et suivi que 3 lettres manuscrites d'Arthur Rimbaud avaient été vendues lors d'une vente aux enchères récente début décembre. Alors que nous allons célébrer en début 2024 eh bien, le 170e anniversaire de la naissance d'Arthur Rimbaud, notre ville n'a pu hélas accueillir que l'une de ces 3 lettres, et encore avec l'aide, il faut le signaler, de l'État et de la région, compte tenu des prix très élevés qu'ont atteint eh bien, et qu'atteignent tous les écrits d'Arthur Rimbaud dans ces différentes ventes. Mais c'était sans compter un très généreux mécène, dont l'amour infini pour Charleville lui est monté dans l'âme, comme dirait Arthur Rimbaud, c'est pas de moi, c'est tiré du poème Sensation, hein. Et qui nous a fait savoir qu'il avait acquis les 2 autres lettres qui étaient mises en vente et qu'il souhaitait les offrir au musée Rimbaud. Qu'il me soit permis donc de remercier ce généreux donateur pour sa grande générosité. Elle nous permettra de présenter au monde les 3 lettres d'ici quelques semaines avant qu'elles ne viennent enrichir les collections permanentes de notre musée. Merci à lui.
Les manuscrits devraient être exposés prochainement au musée Rimbaud après une présentation officielle prévue courant février. À noter que lors de cette même vente aux enchères, le manuscrit de l'Éternité, un des poèmes les plus connus d'Arthur Rimbaud, dont le manuscrit a disparu depuis plus d'un siècle, était mis à prix 150 000 euros. Il sera finalement acheté 702 000 euros. Les commissaires priseurs confieront à nos confrères de l'Union que ce montant est un record. Toute littérature confondue pour un poème d'une page seulement. 18h39, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue.
le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Ils sont dans les starting blocks pour décrypter l'actualité politique au niveau national et peut-être même au niveau local.
Oui, enfin, on fait ce qu'on
Jean-Pierre
peut,
Benoît, Fernand Tavares, pas... vous faites ce que vous pouvez, mais vous le faites bien, Jean-Pierre.
Oh, mais merci, Alexis.
Allez, je vous laisse avec Fernand.
Mais oui, vous aussi, vous allez rester là. Fernand, bonsoir. Vous suivez Fernand Tavares, bon, journaliste parlementaire qui dirige aussi France 3 sur le plan national, on le répète à chaque fois. Mais vous avez suivi et vous suivez en ce moment ce qui s'est annoncé, qui annonce ce remaniement gouvernemental. Alors, où en est-on? Les grandes figures, il reste des poids lourds, on annonce seulement 10 à 15 ministres.
Effectivement, ce sont ce qu'on dit dans le langage courant des ministres à temps plein. La dernière nouvelle qui circule nous concerne directement la Champagne-Ardenne et en particulier Reims, puisque Catherine Vautrin serait dans les starting blocks. Pourquoi ministère du Travail et des Affaires Sociales? C'est un retour de manivelle, si j'ose dire, de la part d'Emmanuel Macron, qui avait une dette et qui a toujours eu une dette envers Catherine Vautrin, qui, comme chacun le sait, a failli, à une seconde près, devenir la première femme première ministre. Donc, ça n'est pas une surprise en tant que telle, ça montre que le président de la République a en mémoire un certain nombre de choses, et comme dans ce nouveau gouvernement, il lui faut trouver au milieu des hommes un certain nombre de femmes, et si possible des femmes compétentes, évidemment, Catherine Vautrin est en première ligne. On ne sait pas alors qu'il est, si c'est confirmé ou pas, mais disons que c'est dans l'air d'une façon très avancée et très sérieuse. Alors, elle serait nommée ministre à temps plein. Auparavant, elle a déjà été une fois ministre déléguée, c'est une sorte de secrétaire d'État améliorée, puis deux fois secrétaire d'État sous Jacques Chirac. Elle a été également vice-présidente de l'Assemblée nationale plusieurs fois, mais jamais ministre à temps plein. Donc, ça serait quand même une promotion pour
ça
elle.
Ça serait pour être vraiment une satisfaction, parce que vraiment, elle avait été, j'allais dire, choquée quand même, à titre personnel, puisque elle avait même visité Matignon, dit-on, des engagements avaient été pris. Mais alors, effet collatéral, qu'en est-il d'Arnaud Robinet?
Pour l'instant, son nom ne circule pas. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont que les ministres à temps plein qui sont nommés. Et demain, ou dans les jours qui viennent, ce seront des secrétaires d'État. Donc là, tout est encore possible, hein. Et puis on ne connaît pas non plus l'ensemble des ministres à temps plein. Simplement, ce soir, la préoccupation du nouveau Premier ministre, M. Attal, et du président de la République, c'était d'intégrer au plus vite un certain nombre de femmes, parce que les noms qui avaient été avancés d'abord, c'était les noms d'hommes déjà en place, comme M. Dupond-Moretti, à la justice, comme M. Le Maire, aux finances, et évidemment Gérald Darmanin. Donc il fallait retrouver un certain nombre de poids lourds, si j'ose dire. Et en même temps, donner un signe politique très fort. On observe effectivement, alors la surprise du jour, c'est Mme Rachida Dati, que j'ai bien connue à l'Assemblée nationale sous Nicolas Sarkozy. Elle faisait tandem avec une autre secrétaire d'État. Elles ont fait la campagne pour Nicolas Sarkozy en long, en large. Elle est devenue garde des Sceaux. C'est une femme de tempérament. C'est une femme qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est un peu bizarre, si vous voulez. Alors, on peut faire une analyse politique en disant, à l'heure actuelle, comme à l'issue du vote sur la loi de l'immigration, c'est passé de justesse grâce aux Républicains, à LR, il fallait peut-être dans ce gouvernement donner un signe fort pour qu'une majorité à venir continue de fonctionner pour Emmanuel Macron. Bon, ça c'est la vision politique. C'est
oui, mais je vous interromps quand même, je me permets, Fernand, c'est que nous sommes en 2024 et en 2026, il y a des élections municipales à Paris. Rachida Dati s'est déjà cassé les dents lors de ces élections et elle a forcément besoin à Paris, si elle veut se lancer dans la bataille, du soutien de Renaissance. Est-ce qu'il n'y a pas eu un pacte là qui pourrait être dressé?
Alors, là, écoutez, moi je n'entrerai pas dans le détail des pactes, mais je vois un signe. Derrière tout cela, certainement, il y a un homme qui a été consulté, parce qu'il est toujours consulté.
Nicolas Sarkozy.
Par Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy. Donc, comme Rachida Dati est une très, très, très proche de Nicolas Sarkozy, ceci peut expliquer cela. Néanmoins, d'ailleurs, on l'entend encore aujourd'hui, Madame Dati est mise en examen. Elle n'est pas condamnée, mais elle est mise en examen. Voilà, comme l'a été M. Dupond-Moretti. Alors, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que c'est à l'examen d'examen qu'elle sera condamnée. Mais enfin, ça va circuler très fort dans les jours à venir. Bon, elle est au ministère de la Culture, C'est un changement important, mais ce n'est pas un poste de politique politicienne. Par rapport à la mairie de Paris, on peut aussi imaginer une autre chose, en imaginant qu'elle se sort de cette affaire judiciaire, en imaginant. Bon, ça la renforce quelque part pour une éventuelle envie de retourner par le sommet au moment des élections municipales. Mais là, on n'en est pas encore dans cette affaire, mais tout est possible.
Ça va venir ça va venir vite quand même, Fernand, 2026, hein, parce que 2025, il faut un an pour se lancer là-dedans, donc ça approche certainement. Mais globalement...
Dans un premier temps, le signe fort politique, ça c'est clair, net, c'est un gouvernement qui se droitise, entre guillemets, qui se rapproche par la force des choses des Républicains, et donc ça montre bien que le président de la République, Emmanuel Macron, entend à l'avenir faire passer un certain nombre de lois, de projets de loi, avec l'aide majoritaire des Républicains. Il ne peut compter que là-dessus pour avoir une vraie majorité à l'Assemblée nationale. Et en imaginant que le nouveau Premier ministre engage sa responsabilité ou demande un vote de confiance la semaine prochaine, eh bien, si les voix des Républicains se portent avec celles des macronistes, c'est gagné. Donc, on
alors,
verra.
Tout ça, bien sûr, on va le voir. Il nous reste une minute, Fernand. C'est vrai que il suffit d'une nomination dans un gouvernement pour qu'on ne parle que de ça dans la soirée. Les postes régaliens n'ont pas été changés. Donc en fait, l'armature n'est pas changée. Mais le fait qu'il y ait Rachida Dati ou des ministres comme ceux-là ou Catherine Vautrin, tout de suite, ça va attirer l'attention et c'est ça qu'on va retenir du gouvernement.
Oui, mais pour ce qui concerne la nomination de Catherine Vautrin, c'est quand même quelqu'un dans son travail, que j'ai connu aussi à l'Assemblée nationale avant de la connaître à Reims, mais à l'Assemblée nationale et également dans les gouvernements de Jacques Chirac, qui est vraiment très sérieuse, qui a toujours été considérée comme une femme très compétente, elle est économiste, elle travaille dur lorsqu'elle est en fonction, elle ne se met pas à faire de la politique politicienne, c'est une femme de dossier qui réussit et qui a réussi dans ce qu'elle a fait, donc à mon avis, là-dessus, on ne va pas la critiquer pour, en tant que politicienne, c'est pas du tout ça. Simplement, ce qu'on peut observer, c'est que Emmanuel Macron lui renvoie l'ascenseur, en quelque sorte, règle une grosse dette à l'époque où vraiment, en dernière minute, il l'a changée alors qu'elle devait être Premier ministre, la première femme Premier ministre. Donc,
merci.
Je pense qu'il y a une régularisation.
Merci Fernand Tavares d'avoir été avec nous. La suite du magazine avec Alexis Claudretz qui est toujours avec nous. À bientôt Fernand.
À bientôt Jean-Pierre Benoît.
Le 18-19 sur RCF.
Dans un mois, les responsables des hospitalités diocésaines du monde se retrouveront à Lourdes pour préparer les pèlerinages diocésains. Nous avons rencontré pour vous la nouvelle équipe de l'hospitalité diocésaine de Châlons avec sa présidente Claudine Vincent qui nous rappelle le sens de cette association.
Bonjour, aujourd'hui je vous propose une association comme invité. C'est l'hospitalité diocésaine de Châlons. Une nouvelle équipe vient d'être constituée au niveau de cette association et j'ai près de moi Claudine Vincent, la nouvelle présidente. Bonjour Claudine.
Bonjour Gérald. Je suis également avec Brigitte Moretti et puis il y a deux autres personnes, Marie-Vonne Renaudet et Nelly Jacquineau. Donc nous sommes quatre personnes et moi bien sûr en tant que présidente.
Claudine, l'association que vous présidez, elle sert à qui et à quoi ?
Alors, cette association, c'est accompagner et servir nos frères et sœurs malades ou porteurs d'un handicap dans une démarche de foi et de partage au cours du pèlerinage annuel diocésain à Lourdes. Et voilà notre mission. Nous nous engageons aussi à permettre à ces personnes de vivre pleinement leur foi auprès de Marie et de Bernadette, tout en vivant pendant 6 jours une expérience communautaire.
Quand aura lieu le prochain pèlerinage ?
Le prochain pèlerinage est du 22 au 27 avril 2024. Et le thème, allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. Donc j'espère que cette année, que vous soyez bien portant, malade, porteur d'un handicap, jeune, venir nous rejoindre pour que, ensemble, nous formions une très belle procession.
Comment on fait pour s'inscrire ?
Vous avez en paroisse des bulletins d'inscription. Et pour les personnes handicapées, porteurs d'un handicap ou malades, vous pouvez vous adresser à l'accueil de votre espace missionnaire qui vous orientera à la personne chargée d'établir votre dossier. Celui-ci doit impérativement être rempli pour le 1er mars. Vous devez avoir l'accord de votre médecin traitant. Donc cette démarche, en premier lieu, n'est que pour une acceptation éventuelle par la commission des médecins de l'hospitalité.
Claudine Vincent, comment devient-on hospitalier ?
Pour devenir hospitalier, il n'est pas nécessaire d'être médecin ou personnel soignant. Seul importe le désir d'aider les plus faibles à vivre un temps de ressourcement. Et cette année, en 2023, nous avons eu 21 auxiliaires, hommes et femmes, qui nous ont rejoints, 16 jeunes et 15 pages qui étaient à nos côtés, ce qui est remarquable.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un page ?
Le page, c'est donc un jeune qui arrive pour la première fois à l'hospitalité, qui n'est pas là effectivement pour soigner, mais nous aider à brancarder, être disponible pour les repas par exemple.
Et qu'est-ce que c'est qu'un ou une auxiliaire ?
Donc c'est une personne qui est là effectivement pour nous aider. Ce sont des bras neufs qui sont près des malades et pour les toilettes, pour les brancardages, enfin pour tout ce que l'on doit assurer, le ménage également, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, pour assurer vraiment une cohésion, une réelle fraternité, même une ambiance amicale tout au long du pèlerinage.
Une grande famille, quoi.
Exactement. Effectivement, être auxiliaire, c'est aussi être accompagné par un parrain ou une marraine qui, tout au long du pèlerinage, vous donne des consignes, vous aide à être auprès des malades. Les parrains-marraines sont là pour transmettre leur savoir-faire à leurs filleuls.
Et les jeunes, comment ils arrivent à l'association ?
Dès 16 ans, ils peuvent rejoindre l'hospitalité afin de vivre un vrai temps fort auprès des personnes fragiles, âgées, en veillant à respecter le message du pèlerinage diocésain, servir. Et ce qui est remarquable et toujours très très touchant, c'est de voir ces jeunes assis auprès d'une personne âgée et avoir une conversation, j'allais dire, de jeunes à grand-mère ou grand-père.
Claudine Vincent, en dehors du pèlerinage de Lourdes, que font les hospitaliers ?
Notre engagement, effectivement, ne se limite pas aux 6 jours de pèlerinage. Tout au long de l'année, nous sommes invités à le poursuivre par des visites ou des contacts téléphoniques auprès des personnes malades, âgées, isolées.
Que vous avez rencontré à Lourdes ou d'autres ?
Ah non, pas que nous avons uniquement rencontré à Lourdes. Effectivement, maintenir le contact avec ces personnes est indispensable. C'est un prolongement amical. Mais non, c'est d'aller visiter dans nos villages des personnes isolées ou en maison de retraite, en EHPAD, d'autres personnes de nos connaissances ou que l'on nous signale également.
Claudine Vincent, on ne va pas parler de chiffres, combien ça coûte, etc. Mais par contre, on peut être aidé sous une forme qui existe depuis des années.
Enfin, le moment est venu, après les fêtes, de vendre les billets de Lourdes. Merci d'en sensibiliser votre entourage.
Prière pour les vocations à l'hospitalité diocésaine de Châlons-en-Champagne. Seigneur, nous te demandons avec foi de donner à notre hospitalité des vocations de jeunes membres. Donne-nous ta lumière et ta force afin de faire les efforts nécessaires à leur accueil. Donne-nous aussi la sagesse d'écouter leurs idées qui pourraient donner une nouvelle vitalité à notre hospitalité. Sainte Vierge Marie, nous avons confiance en toi. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de l'Épine, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous.
Claudine Vincent, merci d'être venue jusqu'à notre micro. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association L'Hospitalité Diocésaine de Châlons.
Merci Gérald. À bientôt, chers auditeurs.
C'était Claudine Vincent au micro RCF Cœur de Champagne de Gérald Gaillet. Le pèlerinage diocésain à Lourdes pour le diocèse de Chalon aura lieu du 22 au 27 avril 2024 sur le thème « Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse une chapelle et que l'on y vienne en procession. Inscription auprès du service des pèlerinages. Une permanence aura lieu chaque mercredi de 14h à 16h à partir du 14 février à l'évêché de Chalon en Champagne ou auprès des accueils des espaces missionnaires. »
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et en 2024, on retrouve Parole de Jeunes le jeudi avec Jeanne qui nous parle gaming désormais.
Bonjour et bienvenue dans Parole de Jeunes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nina Carla pour parler des jeux vidéo. Bonjour Nina Carla.
Bonjour Jeanne.
À quel jeu vidéo joues-tu ?
Je joue à beaucoup de jeux vidéo. En ce moment, j'ai mes préférés, donc ça va être Fortnite et Minecraft. Après, tout ce qui est également jeu de guerre, j'ai eu l'expérience avec Far Cry, Call of Duty également. Et puis après, on va avoir tout ce qui est jeux mobiles, etc. avec les fameux Clash Royale et Subway Surfer.
Avec qui et sur quel support joues-tu ?
Au niveau du support, ça va être la PlayStation 4. Je joue également à des jeux mobiles, mais surtout pour ce qui concerne ma passion des jeux vidéo, ça va être sur la PlayStation 4. Je vais surtout jouer en solo, donc avec ma propre personne. Après, je peux quand même jouer avec mes meilleurs amis, mes proches, mais je ne joue pas, voire rarement, en ligne.
Pourquoi est-ce que tu aimes y jouer ?
La première raison, je dirais que ça me permet de m'évader, de m'aider un peu à décompresser avec notamment le lycée qui inflige une certaine pression sur mes épaules. Pour ceux qui aiment jouer en ligne aussi, ça permet d'avoir des contacts. Mais étant une fille, je vous dis que c'est un peu plus compliqué.
Comment fais-tu pour limiter le temps que tu passes à jouer aux jeux vidéo ?
C'est un travail avec soi-même. Personnellement, j'arrive à me limiter en me conditionnant et à m'imposer des règles. C'est-à-dire que quand je vais rentrer des cours, je sais que la plupart du temps, je n'aurai pas le temps de jouer. Après, voilà, il ne faut pas non plus se priver quand on a besoin de quelque chose. Pendant les vacances, on arrive à avoir son temps pour soi, à jouer, à se libérer. Voilà comment je fonctionne.
Selon toi, comment sont perçus les gens qui jouent aux jeux vidéo ?
Il y a encore un regard sur les gamers, comme on dit, qui est un peu négatif, notamment avec l'ancienne génération, entre guillemets, parce que je pense qu'on n'a pas encore assez ouvert ce monde à un plus large public. On est surtout avec des jeunes jusqu'à 25 ans peut-être. Donc je pense qu'on est vu comme des personnes qui passent simplement du temps devant des écrans. On oublie souvent l'aspect professionnel. Certains se consacrent aux jeux vidéo, en font un métier et ça devient leur source de revenus. Et je pense que c'est encore compliqué aujourd'hui pour certains de comprendre que c'est un nouveau métier qui s'ouvre au monde, c'est une nouvelle façon de passer son temps pour se divertir comme à l'époque où on jouait dehors avec ses amis.
Tu as dit que, étant une fille, tu évitais de jouer en ligne. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ?
Je joue en ligne, c'est-à-dire que je joue avec des gens dans le monde. On ne se connaît pas, mais on joue ensemble. Par contre, je ne connecte pas mon micro, alors que souvent dans ces jeux-là, on communique avec ces personnes du monde entier. Étant une fille, je l'évite, effectivement. Déjà, en tant qu'humain, j'évite parce que je sais que ça est compliqué parfois les relations. Dans les jeux vidéo, on peut tomber sur des personnes un peu douteuses. En plus, étant une fille, on est encore sur un domaine qui est plutôt masculin, hein, faut l'avouer. Néanmoins, ça reste évident que ça évolue, ça s'ouvre aux filles. Mais voilà, je connais certaines personnes qui ont expérimenté des critiques, des remarques pas très agréables étant une femme. Voilà, ça me révolte un petit peu et c'est pour ça que j'évite tout simplement les problèmes. Et je me débrouille très bien à jouer sans le micro ouvert.
À part ce problème, quels seraient selon toi les autres dangers liés aux jeux vidéo ?
Je pense que, comme toute chose dans le monde, il faut éviter les excès, parce que même si ça a des bons côtés, les jeux vidéo, certains se laissent happer par cette nouvelle façon de passer son temps, et il est clair qu'on peut vite oublier qu'il y a quand même d'autres importances. On est dans une vie où il est important de se consacrer aussi au travail, si on n'en fait pas un travail. Donc il y a ces dangers-là de tomber dans l'excès. Ce n'est pas que pour les femmes, hein. Des fois on peut tomber sur des personnes malveillantes sur les jeux vidéo, on peut effectivement se prendre des remarques désobligeantes, on peut tomber aussi dans des cas extrêmes, hein. Le racisme revient beaucoup, mais à savoir qu'il existe des possibilités pour lutter contre ces dangers, certains moyens sont mis en place, comme le moyen de signaler des joueurs, signaler un certain type de problème, et là la plateforme pourra intervenir s'ils en ont le temps, mais il y a quand même des moyens qui sont mis en place.
Merci beaucoup Nina Carla de nous avoir partagé ton expérience. C'est tout pour cette interview et à bientôt dans Parole de Jeunes.
Un générique peut en cacher un autre. C'est la fin de Paroles de Jeunes. Dans quelques instants, la fin du magazine régional avec le réseau national de RCF qui va prendre la suite. Pour l'instant, aucune nouvelle concernant les figures politiques locales et le remaniement gouvernemental. Affaire à suivre dans la soirée, évidemment. On vous tiendra aussi informé via nos réseaux sociaux si jamais ça bouge, hein, sur RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne. Voilà, si jamais certains de nos élus sont amenés à bouger ou à prendre des fonctions ministérielles, soyez connectés. RCFRA sur Twitter, RCF Reims-Ardennes sur la page Facebook. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF. C'était Fabrice Gironnet à la mise en onde.